Bon réveil à tous, il est 5h.
Jamais cru en tant que Suisse que la Suisse elle allait gagner.
Et du coup c'est encore plus beau parce qu'on n'y croyait pas, du coup c'est encore mieux. C'est parfait.
Les Suisses ont pensé rêver hier dans les rues de Genève, galvanisés par un succès qui semblait impossible face à une équipe de France championne du monde. Ils l'ont pourtant éliminé de l'Euro de football. Reportage dès le début de ce journal. Encore des changements sur la formule du bac. L'examen sera revu l'année prochaine. Fini les E3C, des épreuves qui venaient d'être mises en place. Et puis c'est le mal-aimé des vaccins, celui d'AstraZeneca. Certains pharmaciens et médecins de ville envisagent de ne même plus en passer commande.
À suivre le journal des sports, notre pressing du matin, et puis nous serons en Bretagne tout à l'heure chez notre éleveuse laitière pour les doigts dans l'assiette.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Bucarest 2021, cela restera comme un cauchemar éternel pour l'équipe de France de foot venue à l'Euro avec le statut de favorite, éliminée dès les huitièmes de finale. Un match fou, les Suisses menaient 1-0 quand Hugo Lloris a stoppé un pénalty. Benzema puis Pogba ont alors enchaîné 3 buts en quelques minutes. Mais à la 81e et à la 90e, 2 buts suisses. Le score de 3 partout tiendra en prolongation. Puis Kylian Mbappé manquera un tir au but. C'est sans doute qu'on ne méritait pas plus, a sobrement réagi Didier Deschamps. C'est le foot, dit-il.
Mais c'est le foot, la soirée d'hier avait quelque chose d'historique pour la Suisse qui ne s'était pas qualifiée depuis 67 ans sur un match à élimination directe. Tout un pays a exulté hier. Simon Rubin à Genève pour Europe 1.
Jamais les rues de Genève n'avaient autant vibré pour un match de football. Il est quasiment minuit quand la Suisse renverse la France et donne le coup d'envoi d'une nuit de fête. Dans les rues, on croise des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, des fans de foot et des curieux. Tout le monde est dehors pour vivre ce moment, partager, savourer, maillot et drapeau suisse sur les épaules.
Franchement, moi, j'aurais jamais cru en tant que Suisse que la Suisse allait gagner.
Et du coup, c'est encore plus beau parce qu'on n'y croyait pas. Du coup, c'est encore mieux. C'est parfait.
C'est incroyable, hein. Franchement, on n'y croyait pas. Les Français, ils nous chambraient. Et franchement, aujourd'hui, on en a fait quelque chose. C'est incroyable. Je suis heureux. Pour la première fois que la Suisse, elle a remporté ce match magnifiquement bien.
Ça, c'est
ouais, cette ambiance, putain.
Bah, magnifique, en plus au pénalty.
Bah, il y a tout eu dans ce match, incroyable.
Cette soirée va marquer éternellement le sport suisse. Désormais, cette nation voisine de la France, que les frontaliers taquinaient volontiers, tient sa revanche, une revanche éclatante, historique. Genève, Simon Rubin, Europe 1.
Et voilà, la France qui pleure et la Suisse qui gagne. On revient sur ce match et sur cette élimination sur le plan sportif dans quelques minutes dans le journal des sports d'Aurélien Fleureau.
Alors parmi tout ce qui a pu faire souffrir les Bleus ces derniers jours, on a parlé de la chaleur de Budapest à Bucarest. Mais que dire de cette température de 47 degrés 9 enregistrée dans l'ouest du Canada il y a quelques heures. Un dôme de chaleur qui couvre toute une partie du pays en fait. Et ça nous interroge aussi pour nous, Virginie Salmen. D'ailleurs, quel est ce phénomène exactement ?
Alors, c'est un phénomène météo qui conjugue de l'air chaud, remonté du sud, du Mexique en l'occurrence, avec des hautes pressions qui emprisonnent cet air chaud et le réchauffent encore jusqu'à atteindre ces températures irrespirables, inédites même sous ces latitudes. Ces dômes de chaleur peuvent également toucher la France, rappelle la prévisionniste de Météo France, Christelle Robert.
On a déjà eu des dômes de chaleur sur la France. Hein. Rappelez-vous, en juin 2019, on connaissait un peu le même type d'épisode, puisque notre record national avait été largement battu avec les 46 degrés qui avaient été mesurés à Vérargues. On peut comparer un peu ces deux événements. Dans le cadre du changement climatique, on prévoit malheureusement des vagues de chaleur qui peuvent être plus intenses, plus longues, plus précoces et plus tardives. Donc oui, on est amené à revoir ce type de situation en France et dans d'autres pays du monde.
Pour les prévisionnistes, tous ces records de chaleur battus de plusieurs degrés, c'est une empreinte du changement climatique et on n'a peut-être pas tout vu. Cette vague de chaleur va durer ces prochains jours et selon eux, de nouveaux records pourraient tomber.
Virginie Salmen, spécialiste environnement d'Europe 1.
Et je vous le disais, on y reviendra à 6h40. Je serai en ligne avec le climatologue canadien David Phillips qui nous expliquera les raisons de ce phénomène depuis le Canada tout à l'heure à 6h40. Vous le disiez dans les titres, François, le bac change de formule encore une fois, une fois de plus.
Oui, on n'a décidément pas fini de tenter des nouveautés sur l'examen le plus célèbre du parcours scolaire français. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, souhaite renforcer le contrôle continu. Virginie Riva.
L'équilibre du bac reste le même, avec 40% accordé au contrôle continu dans la note du bac et 60% aux épreuves finales. Mais ce qui change, c'est que dans le contrôle continu, seuls compteront les notes obtenues en première et en terminale, soit celles sur les bulletins. Fini les épreuves perlées, les fameuses E3C qui portaient sur le tronc commun, qui n'ont d'ailleurs pu avoir lieu qu'une seule fois avant le Covid. Une décision qui va accroître les inégalités entre élèves pour Sophie Vénétité, secrétaire générale adjointe du SNES.
Le contrôle continu en renforçant la part des évaluations locales, des contrôles locaux, va donner peut-être la perspective d'un bac local où finalement ce qui comptera plus c'est l'établissement d'où on vient, l'établissement d'où on a passé le bac plutôt que le bac en lui-même.
Autre nouveauté, l'enseignement moral et civique sera évalué en tant que tel après cette année marquée par l'assassinat de Samuel Paty. Énorme chantier en cours, les programmes des enseignements de spécialité devraient tous être allégés sans qu'on connaisse encore les détails. Des changements enclenchés dès la rentrée de septembre.
Va-t-il appuyer sur le bouton ? Selon le journal Les Échos, Emmanuel Macron a sur son bureau un projet de réforme des retraites qui pourrait être déclenché dès cet automne avec cet âge de départ à la retraite qui serait porté à 64 ans.
À quelques mois de l'élection présidentielle, Olivier Samin, les partenaires sociaux sont très très réticents.
Tous contre cette idée, aussi bien les syndicats que le patronat, mais pas pour les mêmes raisons. Pour les syndicats, un relèvement de l'âge de la retraite serait une mesure à la fois désastreuse, injuste et politiquement ravageuse. Des chocs, on en a déjà assez pris comme ça ces derniers temps, dit l'un d'eux. Choc sanitaire, choc économique, choc moral. Pas la peine d'en ajouter un autre. Et les syndicats l'assurent, engager une telle réforme à l'automne en misant sur l'effet de sidération à quelques mois de la présidentielle, ça ne marchera pas. Les Français redescendront dans la rue. Le patronat, lui, s'oppose à ce projet, non pas sur le fond. Il défend depuis longtemps un report de l'âge de départ à la retraite, mesure qui permettra d'économiser beaucoup d'argent très vite. Mais il considère qu'une telle réforme ne doit pas être lancée à la va-vite à 6 mois de l'élection présidentielle. Les enjeux sont trop importants, dit-il. Ce doit être un choix de société débattu dans la campagne électorale qui s'annonce. Mener la réforme à la hussarde, c'est prendre le risque de la rater et de ne plus rien pouvoir faire avant longtemps.
Olivier Samin, spécialiste des questions sociales à Europe 1.
Du côté de la campagne vaccinale, plus de 570 000 doses de vaccins ont été administrées hier en France. Notez que le président d'AstraZeneca France, Olivier Nataf, sera l'invité d'Europe 1, l'invité du tête-à-tête d'Europe Matin à 7h40 tout à l'heure avec Mathieu Béliard.
Oui, AstraZeneca, c'est 5 millions d'injections jusqu'à présent en France, le deuxième vaccin le plus utilisé. Sauf qu'entre les retards de livraison et les craintes d'effets secondaires, il souffre vraiment d'une très mauvaise image, Anne Le Gall.
Oui, chez de nombreux médecins ou pharmaciens, c'est le même constat. Les patients prennent encore rendez-vous pour recevoir leur deuxième injection d'AstraZeneca, mais il n'y a quasiment plus de première injection. Le taux d'utilisation de ce vaccin était la semaine dernière de 63% contre 90% pour le vaccin Pfizer. Gilles Bonnefond est le président de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine.
On est en train d'utiliser ce que nous avons dans nos frigos pour la seconde injection, mais malheureusement, on n'arrive plus à recruter. Les patients souhaitent du Pfizer ou souhaitent du Moderna, voire du Janssen, mais l'AstraZeneca, c'est extrêmement difficile. C'est dommage parce qu'on se prive d'un vaccin qui était efficace.
Et le docteur Jacques Battistoni, président du syndicat MG France, fait le même constat. Entre une peur injustifiée des thromboses et la restriction d'âge aux plus de 55 ans, AstraZeneca ne séduit plus au point que ce généraliste envisage d'arrêter totalement les commandes de ce vaccin dans les semaines qui viennent, sans aucun état d'âme, car ses patients lui réclament aussi désormais le vaccin Moderna, dont les livraisons vont encore augmenter en juillet.
Anne Le Gall, merci Anne. Et puis une exposition à Marseille, c'est la star de l'art contemporain Jeff Koons, célèbre pour ses sculptures imitant des ballons géants aux couleurs vives. Diane Chenouda nous emmène au Mucem où elle a pu rencontrer l'artiste.
Un homard transformé en acrobate, un énorme ballon en forme de chien, le célèbre Balloon Dog de Jeff Koons, entouré de photos anciennes d'un clown en train de gonfler des ballons, une vingtaine d'œuvres pop iconiques de la star, dialogue avec des objets d'art populaire choisis par Jeff Koons lui-même.
Je suis venu ici à Marseille découvrir la collection du Mucem et ses milliers et milliers d'objets très variés, des pinces à cheveux aux instruments de musique. Ça a été une expérience formidable d'avoir ce dialogue ici en France avec ces objets de la vie de tous les jours et mes œuvres créées à partir d'objets du quotidien.
Plus loin, les chevaux et cochons de bois d'un vieux manège tournent autour de bouées d'animaux gonflables de Kunz. Le public est séduit.
Moi, je trouve ça intéressant. Le mélange entre les œuvres anciennes et le moderne, enfin, de Jeff Koons, je trouve que c'est sympa. L'association des deux, oui, ça marche très bien.
C'est très beau, c'est que des beaux objets. C'est une sorte de perfection.
Un dialogue qui sublime l'art pour tous de Koons et magnifie aussi tous ces objets anciens.
Cette exposition à voir au MUCEM à Marseille, c'était Diane Chénouda.
5h10, c'était le journal de François Geffrier sur Europe 1. Tout à l'heure. Et bonjour Aurélien Fleureau.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Votre journal des sports avec évidemment à la une cette terrible déception pour l'équipe de France de foot battue au tir au but hier par la Suisse en 8e de finale de l'Euro.
Oui, au terme d'une soirée où les supporters français étaient plus proches des montagnes russes que des montagnes suisses. Une première mi-temps catastrophique, un sursaut et des éclairs de génie en deuxième mi-temps où les Bleus ont mené 3-1, doublé de Karim Benzema, frappe lumineuse de Paul Pogba, mais voilà. Les Suisses ont poussé jusqu'au bout. Ils ont réussi à égaliser 3-3 à la 89e minute de jeu. Prolongation crispante, plusieurs occasions nettes pour la France, mais c'est lors de la séance des tirs au but que tout s'est joué, jusqu'à cette frappe de Kylian Mbappé sortie par Yann Sommer, le gardien suisse. Il a manqué la solidité qui avait permis ce titre de champion du monde en 2018, selon Hugo Lloris, le capitaine de l'équipe de France.
Je crois que notre grande force ces dernières années, c'était notre solidité à toute épreuve. Quel que soit le résultat, on était capable de rester fort dans les moments importants. Les Suisses ont eu le mérite d'y croire jusqu'au bout. Ce deuxième but relance complètement le match et ce troisième but est très douloureux. Si aujourd'hui on doit avoir des regrets, c'est sur cette gestion du 3-1. Parce qu'après le reste, on ne peut pas nous reprocher un manque de générosité, parce qu'on a tout donné, on finit sur les rotules, et il va falloir se relever de cette défaite.
Hugo Lloris au micro de Cyril de la Morinerie à Bucarest, le gardien des Bleus qui pensait avoir fait le plus dur en stoppant un pénalty à la 55e minute, empêchant les Suisses de mener 2-0. Mais ce départ calamiteux aura plombé l'équipe de France. Alors, est-ce que c'est la faute des choix tactiques du sélectionneur Didier Deschamps? Est-ce que cela doit même remettre en cause son poste? Non, a clairement répondu notre consultant Giroud hier soir dans le Europe 1 Football Club.
Il faut rester dans notre politique à l'allemande. Ils donnent au moins une chance à tous leurs sélectionneurs, et parfois plus, avant de changer. Si Didier Deschamps a encore l'agnac et veut encore continuer, il faut qu'il continue. Pas parce qu'on aurait des solutions brillantes ici ou là qu'il faut sauter dessus.
Et parmi ces solutions, tout le monde pense bien sûr à Zinedine Zidane qui a quitté le banc du Real Madrid. Mais sauf énorme surprise, Didier Deschamps devrait bien rester en poste jusqu'à la prochaine Coupe du Monde en 2022.
Oui, parce que ça arrive vite, c'est déjà l'année prochaine la Coupe du Monde. Les Suisses donc qualifiés, c'est eux qui affronteront l'Espagne en quart de finale.
Oui, au terme d'un autre match complètement fou contre la Croatie, les Espagnols, comme les Français, ont été menés 1-0, ont mené 3-1 avant de se faire rejoindre 3-3 sur le fil. Sauf qu'en prolongation, ils ont été plus réalistes que les Bleus. Score final 5-3. Au programme aujourd'hui, une très belle affiche à Wembley. L'Angleterre reçoit l'Allemagne à 18h. Et puis à 21h, la Suède affronte l'Ukraine.
Un mot du Tour de France, quand même, encore une journée marquée par les chutes hier.
Oui, c'est le Belge Tim Merlier qui a réussi à se faufiler et à s'imposer à Pontivy, mais effectivement, série de chutes, notamment pour deux favoris, Roglic et Thomas. Le Français Julian Alaphilippe a eu la chance d'éviter ces mésaventures, mais clairement, il se passerait bien de ce type d'étape.
Ça a été une journée assez éprouvante, il fallait beaucoup de concentration et c'était un final très nerveux avec beaucoup de chutes malheureusement. C'est vrai que c'était pas mal de petites routes tout au long de la journée. C'était parfois humide, donc ça on n'y peut rien, mais il y avait vraiment beaucoup de nervosité dans le peloton et c'était pas super agréable.
Le maillot vert, Julian Alaphilippe au micro d'Axel May. Le maillot jaune est toujours sur les épaules de Mathieu Van Der Poel. Quatrième étape aujourd'hui entre Redon et Fougères.
Merci Aurélien Fleureau, à tout à l'heure. Il nous reste à découvrir le pari gagnant du jour. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Sébastien, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome d'Auteuil et mon pari gagnant sera le 205 Golden Sun, entraîné par François Nicole, tête de liste incontestée depuis plusieurs années des professionnels de l'obstacle. Ce poulain gris reste sur une excellente deuxième place à Auteuil, obtenue sur la distance de 3000 mètres. Les 500 mètres supplémentaires cette fois ne pourront qu'avantager ce fils du crack étalon Martaline, ce qui devrait lui permettre de remporter dès cet après-midi sa première victoire. Notez bien, pour Auteuil, réunion 1, dans la deuxième course, le numéro 5, Golden Sun.
Merci à vous Thierry Léger, on vous retrouve dans 20 minutes pour vos pronostics du Quintet. À tout à l'heure.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Très bon réveil à vous tous, il est précisément 5h15 et bienvenue dans le 5-7 si vous nous rejoignez à la une. Il y a bien sûr cette soirée étouffante pour les Bleus, éliminés donc de l'Euro de football en 8e de finale par la Suisse. Ça s'est passé au moment de la séance des tirs au but. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron en 2017, l'ouverture de la PMA, la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes seules. Le texte doit être définitivement adopté aujourd'hui au sein de la loi bioéthique par l'Assemblée nationale. Cette information Europe 1, l'encadrement des loyers entré en vigueur à Paris il y a 2 ans est très peu respecté. Un logement en location sur 2 ne respecte pas les critères. Plus de 1000 milliards de dollars, c'est la valeur atteinte en bourse par Facebook hier pour la première fois de son histoire. Le réseau social vient de remporter une victoire judiciaire contre l'autorité de la concurrence aux États-Unis.
Europe 1.
Allez, c'est l'heure du pressing du jour avec autour de moi Ambline Roche et Martin Lange. On commence par un coup d'œil aux unes de vos journaux. Tiens, on va regarder ce que dit la presse de cette défaite des Bleus. Un seul mot à la une du quotidien sportif, l'équipe anéantie. La claque pour Midi Libre, la désillusion pour le Parisien aujourd'hui en France, qui met à la une le visage défait de Kylian Mbappé. Ces Bleus-là ne méritaient pas d'aller plus loin, écrit le journal. Désillusion aussi pour le Dauphiné Libéré, pour la Dépêche du Midi, qui raconte le coup de massue pour les champions du monde. Échec au bout de la nuit, c'est le titre à la une du Progrès de Lyon. Des Bleus en berne pour la République des Pyrénées. Des Bleus penauds en titre de Nice Matin. Les Bleus sont tombés de haut, écrit la Voix du Nord, et sortent par la petite porte. C'est le titre de Sud-Ouest avec Didier Deschamps à la une, main sur le visage. Enfin, il y a quand même de la politique dans vos journaux ce matin. Après les régionales, bien sûr, LREM et RN le doute, c'est le titre de La Croix. Alors que la droite victorieuse est en quête d'un champion, écrit le Figaro. Une droite pour deux, titre Libé, Xavier Bertrand et Emmanuel Macron. On s'arrête maintenant sur les 3 histoires qui ont attiré notre attention dans la presse ce matin. Omblin en parle donc de la loi bioéthique, je le disais à l'instant, qui doit être votée définitivement aujourd'hui.
L'horloge biologique tourne. De nombreuses femmes ont les poils qui se hérissent dès qu'elles entendent cette cruelle affirmation. Mais de fait, pour une trentenaire célibataire qui espère un jour avoir des enfants, le compte à rebours peut être assourdissant. Et ça a été le cas de Sophie. C'est le Parisien aujourd'hui en France qui raconte son histoire ce matin. Sophie se sépare de son compagnon lorsque ses amis découvrent les joies de la maternité. Pour pallier toute éventualité, elle décide de congeler ses ovocytes. Sauf qu'en France, la pratique est autorisée seulement pour motif médical, c'est-à-dire avant tout traitement susceptible d'altérer la fertilité comme un traitement contre un cancer. Elle est autorisée aussi pour les donneuses d'ovocytes. À la différence d'autres femmes, eh bien Sophie va trouver le moyen de faire prélever ses ovocytes en France et non en Belgique ou en Espagne où la pratique est légale pour quelques milliers d'euros. Grâce au bouche à oreille, elle contacte un gynécologue qui accepte de le faire dans un hôpital de la région parisienne, même si c'est illégal, donc au nom du droit des femmes. Sophie raconte avoir reçu un traitement de stimulation ovarienne. Ce sont des injections que l'on se fait soi-même pendant plusieurs semaines. Et puis après une anesthésie locale, elle a pu congeler 12 ovocytes. Elle a désormais 10 ans devant elle et elle a l'impression de ne plus avoir cette chape de plomb sur les épaules. Congeler ses ovocytes sans raison médicale en France, c'est donc l'une des évolutions sociétales majeures inscrites dans la loi de bioéthique qui doit être adoptée aujourd'hui, vous le disiez, légaliser la pratique pour toutes les femmes, plus besoin d'aller à l'étranger, plus de clandestinité pour les femmes qui arrivent à le faire en France et l'opération sera remboursée par la sécurité sociale.
Et voilà. Ce sera remboursé, ce sera gratuit.
Ouais. Et ce sera,
bah oui, pas de critère médical,
zéro.
Tout le monde peut le faire.
Tout le monde, toutes les femmes célibataires ou en couple. En congelant mes ovocytes, je me suis offert la possibilité d'étirer le temps qui passe, c'est-à-dire dans le Parisien aujourd'hui en France.
Autre sujet un peu plus léger, quoique, enfin, alors que les vacances se préparent, tout le monde est en train d'y réfléchir, bien Libération nous donne quelques conseils pour, je cite, partir à la plage sans bousiller la planète.
Ah, eh oui. Des vacances écolo.
Voilà, ou comment bien choisir ses produits indispensables de l'été. Alors, on commence par exemple par la crème solaire. Alors, évidemment, il y a beaucoup de choses à regarder quand on choisit la crème solaire, il faut qu'elle protège bien évidemment. Mais ensuite, la composition est importante. Et Julie Chapon, qui a fondé l'application Yuka, vous savez, cette application qui permet de scanner les articles au supermarché pour connaître ses composants, bien, explique qu'il vaut mieux éviter, par exemple, les nanoparticules et les filtres solaires qui sont de possibles perturbateurs endocriniens. Des nanoparticules qui ont aussi un impact négatif sur les coraux. Vous les repérez par la mention BP2 sur l'emballage. Voilà, BP2, vous évitez. Et il faut aussi éviter les crèmes qui contiennent du silicone, ce qui pollue les milieux aquatiques, et préférer les textures de crèmes plutôt lait plutôt que les huiles, vous voyez ? Parce que là aussi, les huiles peuvent affecter les végétaux. Donc ça, c'est pour la crème solaire. Autre incontournable, le pique-nique. Le pique-nique qui forcément va entraîner beaucoup de déchets et de déchets plastiques. Et là, attention, les emballages alimentaires plastiques, c'est la moitié des déchets qu'on retrouve sur les plages et donc potentiellement ensuite dans les océans. Et il est facile, hein, nous dit le journal, de les éliminer de son pique-nique. Alors vous utilisez par exemple des contenus réutilisables. Il y a la fameuse gourde en inox.
La boîte.
Les boîtes de rangement alimentaires, les couverts et les gobelets réutilisables, des serviettes lavable. Voilà, il y a plein de solutions pour éviter le plastique. Parce que même quand on fait attention, il y a toujours un petit morceau qui peut s'envoler. Exactement. Enfin, Libération vous donne aussi des conseils pour choisir vos lunettes de soleil, vos tongs. Tiens, là aussi, les tongs, encore du plastique. Attention, elles peuvent aussi contenir des toxines. Donc, vous préférez les tongs en latex végétal, en caoutchouc naturel. Il y a aussi des marques équitables. Oui, il y a des marques équitables aussi pour les tongs. Des marques responsables aussi pour les maillots de bain. Ouais, qu'on a tendance à changer peut-être un peu trop souvent, nous dit Libé. Parce que le maillot, il est souvent fait en matière synthétique, c'est du nylon, du polyester, donc tout ça est polluant. Donc il y a des alternatives.
Mais les grandes marques le font aussi, elles s'y mettent à faire des lignes de maillots écolo.
Toutes
les marques s'y mettent.
Par exemple, il y a un maillot de bain fabriqué à base de déchets plastiques.
Ah bah ouais.
Justement, vous voyez, je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais quoi qu'il arrive...
Non, mais ça ressemble à un maillot de bain.
Ça ressemble à un maillot de bain, exactement. C'est la matière, bien sûr, qui est fabriquée à base de plastique. À base de déchets plastiques. En tout cas, on retient tous une chose, le vêtement qui a le moins d'impact, ça vaut pour tous les vêtements, pas seulement le maillot de bain, c'est celui qu'on garde longtemps, qu'on ne change pas tous les ans ou tous les... qui ne fait pas qu'une seule saison. Quoi. Voilà.
Mais surtout que le maillot de bain, on ne le met pas non plus toute l'année.
Voilà.
Enfin, ça dépend où on habite. Mais...
Vacances, j'oublie pas du tout d'être écolo, c'est-à-dire dans Libération ce matin. Double page, il y a beaucoup de détails. Martin, c'est à vous.
Oui, avec cette question, hein, Sébastien Ombline, peut-on tomber amoureux deux fois de la même personne?
Oui, parce qu'on peut se séparer, et puis la vie fait qu'un jour on va peut-être se retrouver. Je sais pas.
Eh bien, cet Américain est d'accord avec vous, Oblin. Atteint de la maladie d'Alzheimer, hein, il a épousé sa femme une seconde fois. Alors, il s'appelle Peter. Il est marié à Lisa depuis 12 ans, une histoire d'amour déjà originale. Les deux tourtereaux se sont rencontrés mariés. Déjà, ils étaient voisins, ils se sont perdus de vue, puis au moment de leur divorce, ils ont repris contact et se sont donc mariés une première fois. Mais il y a 3 ans, le diagnostic tombe, Peter est atteint de la maladie d'Alzheimer et il commence à oublier Lisa, comme cette fois de retour de vacances quand il lui fait visiter sa propre maison. Vous imaginez le choc pour Lisa. Ça me brise le cœur, explique-t-elle à CNN, j'ai tout le temps envie de lui dire, tu te souviens de ça, mais Peter ne se rappelle plus de rien.
Alors c'est une série télé qui va servir d'électrochoc.
Oui, tout à fait, cet hiver, Peter et Lisa regardent une scène de mariage dans une série télé, donc Lisa est prise par l'émotion, elle se met à pleurer et c'est là que Peter évoque l'idée d'un nouveau mariage. Il est tombé amoureux de moi une deuxième fois, raconte la mariée, qui saute sur l'occasion pour se créer de nouveaux souvenirs avec ce compagnon, des souvenirs dont il pourrait se souvenir cette fois. Peter et Lisa se sont donc dit oui une seconde fois au mois d'avril, on sera ensemble jusqu'à la fin, rien ne peut nous séparer, conclut Lisa. Un joli message d'espoir aussi pour toutes les personnes atteintes de cette maladie. Lisa tient d'ailleurs un blog où toutes celles et ceux qui soutiennent un proche malade peuvent partager leur expérience et trouver un peu de soutien. Un homme atteint d'Alzheimer épouse sa femme une seconde fois, c'est à lire sur Slate.
Bah, une jolie histoire. Comme quoi.
Belle histoire d'amour.
Il y en a plein. Il y a autant d'histoires que... Merveilleux. Voilà, on peut partir léger maintenant.
Merci à tous les deux. C'était le pressing du jour, 5h24.
Sébastien Krebs vous informe sur Europe 1.
Et nous sommes en Bretagne, en direct pour Les Doigts dans l'Assiette. Bonjour Charlotte Carglonou.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes notre éleveuse laitière près de Rennes, en Ille-et-Vilaine. Bon, comment allez-vous? Qu'est-ce qui vous occupe en ce moment sur l'exploitation?
Bon, c'est assez calme. On a fait des récoltes et puis, il pleut beaucoup.
Ah, bon.
Non, il pleut beaucoup, ce qui est plutôt... qui est plutôt pas dérangeant hein, pour nous, parce que en fait ça permet de laisser l'herbe repousser et de garantir en fait de l'alimentation pour une bonne période encore. Enfin au moins voilà, je pense que jusqu'à fin juillet les vaches elles auront que de l'herbe à manger grâce à la pluie qu'il y a eu. Bon. Si il n'y a pas de trop grosse chaleur.
Voilà, bon on verra
et
ça.
Oui, et c'est d'ailleurs justement le lien un peu avec le sujet que j'avais un peu envie d'aborder aujourd'hui, c'est que cette période-là, le fait qu'il y ait beaucoup de pluie, bah, par exemple pour certaines productions agricoles comme le maraîchage, ça fragilise beaucoup parce que ça veut dire que les tomates, tous les légumes d'été, ils sont un peu fragilisés là par les grandes quantités d'eau parce que c'est beaucoup d'humidité et que du coup, bah, des potentielles maladies, surtout quand on est en agriculture biologique et qu'on n'a pas de recours à des traitements et des choses comme ça. Donc ça veut dire que, on n'a pas de filet de sécurité, quoi. On n'a pas forcément un filet de sécurité. Et puis, c'est pour ça, en fait, que je voulais un peu aborder la future programmation de la politique agricole commune. Donc, c'est un budget de quand même 9 milliards d'euros qui est distribué aux agriculteurs.
Et le système va changer. Le système va changer justement pour les agriculteurs bio parce que les aides à l'installation vont être augmentées, mais en échange les aides qui continuaient d'être versées pendant 5 ans, c'est celles-ci qui vont être réduites, c'est ça ?
Bah, en fait, les aides à l'installation vont pas beaucoup changer. C'est surtout que aujourd'hui on a une PAC, donc une politique agricole commune, qui est basée sur des aides à l'hectare. Donc plus on a d'hectares, plus on a d'aide, alors qu'on regarde pas du tout l'emploi agricole qui est lié à la ferme. Et c'est très discriminant parce que ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a presque 30% des agriculteurs en France qui ne touchent rien de la politique agricole commune ou très peu d'argent quand certains, par personne, en fait, touchent jusqu'à 100 000 euros à peu près par an. Donc c'est très grave et
qu'est-ce qui vous inquiète du coup dans le nouveau système ? Qu'est-ce qui est négatif ?
Eh ben ce qui nous inquiète c'est que ça n'a pas l'intention de changer et que et qu'on continue à favoriser une politique à l'hectare plutôt que à l'actif, donc plutôt encourager l'emploi agricole et aussi les systèmes en fait, les systèmes vertueux qui protègent, qui sont plutôt protecteurs de l'environnement, du climat et justement de la bio aussi quoi. Donc c'est inquiétant parce qu'on sait que l'Europe, toutes les orientations sont plutôt pour aller vers quelque chose de avec moins d'intrants, moins de pesticides, moins d'engrais, et pourtant sur le terrain c'est pas cette agriculture là qu'on encourage. Et
vous-même,
voilà,
vous-même Charlotte, vous êtes installée en bio hein, c'est ça?
Oui. Moi, je suis installée en bio depuis 3 ans. Alors, moi, je bénéficie d'une aide de la PAC supplémentaire parce que j'ai engagé des changements en fait sur ma ferme. Et même quand on est en bio, on peut choisir soit de prendre des aides à la bio, soit de prendre quelque chose qui s'appelle des mesures agro-environnementales. Donc c'est qu'on s'engage à diminuer la part de pesticides ou de maïs sur notre ferme et en échange on touche aussi de l'argent. Mais au total, l'enveloppe que je perçois tous les ans de la politique agricole commune, elle est quand même inférieure à la moyenne de ce que touchent les agriculteurs en général. Mais et ce que je touche risque aussi de diminuer. Donc c'est pas normal qu'on continue à favoriser certains qui font une agriculture quand même très
on comprend
des grandes fermes, voilà.
Le débat est...
Mais à côté de ça, il y a un maraîcher dans mon département, mais il y a plein d'autres maraîchers. Hein, il cultive moins d'un demi hectare, hein, donc c'est vraiment rien du tout. Et pourtant, avec ça, il emploie presque 6 personnes et il touche zéro aide de la PAC. Et dans la future programmation, telle qu'elle est dessinée aujourd'hui, il touchera rien du tout encore. Parce que le ministre préfère écouter les grandes voix des céréaliers qui font un peu la loi en France.
On entend votre message, Charlotte Carbonneau, et c'est vrai que ce système d'aide européenne fait beaucoup débat en ce moment, cette nouvelle politique agricole commune. Merci, à bientôt dans Les Doigts dans l'assiette, Charlotte.
Merci beaucoup.
5h29, Laurent Cabrol, c'est pas encore le grand beau, on parlait de la pluie en Bretagne, ça va continuer.
Bien oui, encore des nuages, encore des averses, encore des orages. On n'en sort pas et ce sera pratiquement le même temps qu'hier qui nous est réservé aujourd'hui, hein, avec des orages qui vont éclater sur le Massif central. Il y en aura aussi sur le nord de la France dans l'après-midi, sur le centre, sur la Champagne-Ardenne, sur le centre Bretagne. Il y en aura aussi dans le Valais de la Loire. Enfin bref, bon, je ne vais pas tout énumérer parce qu'il y en a tellement que c'est vraiment ahurissant de voir à quel point nous sommes sous l'emprise de ces orages qui persisteront encore aujourd'hui. Alors les températures maximales entre 18 et 31, 31 degrés du côté de Marseille, donc dans le sud, continue à faire chaud, c'est bien, hein, entre 28 et 31, et puis des températures beaucoup plus fraîches pour la saison, à Paris, à Blois, Saint-Etienne, Reims, Lille, Dijon, Angoulême, autour de 19-20 degrés, pas plus. Et il fera même 17 degrés seulement à Cherbourg et à Boulogne-sur-Mer. Vous voyez que les températures, elles aussi, ne bougent pas, mais elles sont quand même dans la fraîcheur.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Tout de suite un nouveau journal sur Europe 1. Bonjour Marion Calais.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
5h30.
C'est un moment triste, on n'avait plus l'habitude, mais il faut l'accepter, c'est ça aussi le sport.
Le premier match à élimination directe de l'Euro a donc été fatal aux Bleus. Hier soir, défaite au tir au but face à la Suisse, après un match fou dans lequel la défense française a peiné. Scénario et analyse dès le début de ce journal. À suivre aussi la droite qui s'organise après les régionales en vue de la présidentielle et les limites de l'encadrement des loyers à Paris, loin d'être respecté.
Après le journal Europe 1, vous l'annoncez dès hier, la réforme des retraites revient sur le tapis. Emmanuel Macron envisage de repousser l'âge légal à 64 ans. Les syndicats sont déjà vent debout. J'appelle dans 10 minutes le secrétaire national de la CFDT, Frédéric Sève.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Pas de doublé donc pour les Bleus, les champions du monde éliminés en huitième de finale de l'Euro hier soir au terme d'un match totalement fou. 3-3 à l'issue du temps réglementaire. Et au final, une victoire de la Suisse au tir au but.
Et au bout d'une soirée d'angoisse que vous nous avez fait vivre en direct sur Europe 1, Cyril de la Morinerie, un match au cours duquel la France est revenue de loin avant de sombrer.
Oui, les Français ont d'abord renversé une situation alarmante après une première mi-temps catastrophique où ils ont rapidement encaissé un but. Hugo Lloris arrête un pénalty qui galvanise les Bleus.
L'arrêt d'Hugo Lloris !
Benzema inscrit ensuite un doublé. Pogba envoie un missile. 3-1 pour les Bleus à un quart d'heure de la fin. On croit alors que les Français ont fait le plus dur, mais la Suisse parvient à égaliser à la toute fin du temps réglementaire. Kinsley Coman à la balle de la qualification, mais sa frappe est repoussée par la transversale. 3-3, prolongation puis tir au but. Kylian Mbappé bute alors sur le gardien suisse. Une vague de tristesse s'abat sur le camp tricolore. Pour Didier Deschamps, la défense française n'a pas tenu le choc.
On a pour habitude d'avoir cette solidité et ça n'a pas été le cas. On a été gagné par la fébrilité, on a relancé cette équipe suisse, même si après dans les prolongations on a fait ce qu'il fallait aussi. Voilà, pour arriver à une séance de tir au but qui est toujours forcément cruelle. C'est un moment triste, on n'avait plus l'habitude, mais il faut l'accepter, c'est ça aussi le sport.
Les Bleus n'iront pas à Saint-Pétersbourg. Les Français se retrouveront en septembre pour les qualifications pour la Coupe du Monde.
Ouais, Cyril de la Morinerie à Bucarest pour Europe 1. Hier soir, la défense française a vacillé. Les Bleus sont apparus fatigués des lacunes physiques qui ont pesé pour la consultante Europe 1, Aline Riera.
La réussite qu'on a pu avoir sur la Coupe du Monde 2018 ne nous a pas souri. Physiquement, nos Français avaient quand même 3 jours de moins de repos que les Suisses. Ce qui a compté, je pense, sur la fraîcheur pendant cette prolongation. Le niveau élevé du groupe ne nous a pas aidé non plus à rentrer dans cette compétition tranquillement et à monter en puissance. Il a fallu puiser peut-être un petit peu plus tôt que certaines équipes, et notamment les Suisses, qui avaient un groupe bien moins relevé, qui se sont qualifiés sur leur dernier match, sous une chaleur qui n'était pas égale pour les différentes nations, parce que nous avons joué sous des grosses chaleurs, alors que certains ont joué en Angleterre ou ailleurs. Donc, il y a des choses, tous les feux n'étaient pas ouverts pour cette fois, mais ne jetons pas tout pour autant.
La consultante Aline Riera au micro Europe 1 de Romain Hockey. En quart de finale, la Suisse affrontera l'Espagne, qualifiée hier, elle aussi au terme d'un match fou, 5-3 après prolongation contre la Croatie. Aujourd'hui, dernier huitième de finale, Suède-Ukraine, mais surtout Angleterre-Allemagne.
5h35 sur Europe 1, cela fera 2 ans après-demain qu'il a été lancé. Mais l'encadrement des loyers peine aujourd'hui encore à s'imposer.
C'est ce que révèle une enquête de meilleurtaux.com qu'Europe 1 et le Figaro vous dévoilent ce matin. Aujourd'hui, une location sur deux ne respecte pas la loi. Le détail de cette enquête avec Victor Pourchet pour Europe 1.
Plus la surface est petite, moins le loyer est en règle. Parmi les appartements de moins de 20 mètres carrés, 3 annonces sur 4 sont illégales, c'est-à-dire que le prix est au-dessus du prix de référence. Des logements visés par les étudiants et les locataires les plus modestes, précisément ceux que le dispositif devait protéger. Pour Thomas Lefebvre, de meilleurs agents qui a réalisé cette étude, la loi n'est pas assez contraignante.
Et il n'y a pas de police des loyers, en fait. On fait porter l'application de cette loi aux locataires. C'est évident, les locataires ne veulent absolument pas rentrer en conflit avec leurs propriétaires. Il y a beaucoup de critères aujourd'hui qui jouent sur le loyer, qui ne sont pas pris en compte dans l'encadrement. Assez vite, les propriétaires ne rentrent pas dans les bornes.
Et sur les sites d'annonce, les offres abusives augmentent. Pour Corinne Joly, présidente du site de location PAP, ce n'est pas à eux de faire le tri.
On n'est pas habilité à dire, là, nous, on estime que votre annonce, elle ne mérite pas de dépasser le plafond de loyer. Sur l'encadrement des loyers, on a fait énormément d'informations. C'est le seul rôle qu'on peut tenir.
En 2020, à Paris, 102 dossiers sont remontés à la préfecture. Résultat, seulement 9 amendes, tout en dessous de 1 500 euros, alors que les sanctions peuvent monter jusqu'à 5 000 euros. La mairie de Paris parle d'un manque de zèle et elle se dit prête à récupérer le pouvoir de sanction.
C'était un géant du prêt-à-porter et de la chaussure, André Koukaï, Nafnaf, 16 enseignes il y a 7 ans et bientôt plus aucune. Le groupe Vivarte, lourdement endetté, a annoncé hier soir qu'il s'apprêtait à céder Minelli, sa dernière marque. Au Liban, blocage hier soir des principales routes à Beyrouth, la capitale, mouvement de colère contre les pénuries d'essence et courant dans ce pays où la monnaie a perdu 95% de sa valeur en 2 ans.
La politique en France avec la course à l'Élysée qui se prépare chez les Républicains.
À la manœuvre après la régionale, Jean Leonetti, le maire d'Antibes, chargé de superviser la désignation du candidat de la droite pour Europe 1, Aurélie Herbemont.
Je vais voir les 3 vainqueurs des régionales avant la fin de la semaine, confie Jean Leonetti. Objectif, sonder Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse et Xavier Bertrand à propos du mode de sélection dont il présentera une ébauche mardi prochain au bureau politique. Un vote électronique, a priori, ouvert au-delà des militants LR. Problème, Xavier Bertrand est hostile à toute idée de primaire. D'où cet avertissement d'un cadre. Ceux qui veulent le soutien de LR doivent respecter le parti. On a les militants, les élus et l'argent. Si Jean Leonetti travaille sur ce système de sélection, c'est que le grand sondage de 15 000 électeurs de droite risque de ne pas suffire à mettre tout le monde d'accord, concède une dirigeante. Cette enquête obligera en tout cas chacun à se dévoiler avant la fin de l'été. La question a été reposée hier à François Baroin, qui avait dit non en septembre. Réponse de l'intéressé, vous serez les premiers informés si je change d'avis. Bref, avant d'avoir un candidat, la droite attend encore la liste précise des prétendants.
Au sein du parti présidentiel, après l'échec au régional, pas de changement de Premier ministre en vue. Emmanuel Macron l'assure dans une interview au magazine Elle, le chef de l'État qui, après son déplacement sur le futur site d'une usine de batterie hier, continue de miser sur son bilan économique. Inauguration aujourd'hui des bureaux de la banque JP Morgan qui a fait de Paris sa nouvelle place forte après le Brexit.
Elle ciblait déjà des infractions routières, mais à Nice, désormais, les caméras de surveillance vont aussi traquer celles et ceux qui abandonnent leurs encombrants dans la rue.
L'équivalent de 20 tonnes de déchets par an, meubles démontés, vieilles électroménagers, des dépôts sauvages contre lesquels la ville a développé un logiciel spécial. Les précisions du correspondant d'Europe 1 à Nice, Frédéric Michel.
Un homme qui dépose en pleine rue un carton et s'éloigne, une scène banale, immédiatement analysée par le logiciel qui donne l'alerte à un opérateur, Christophe Gardon, de la police municipale de Nice.
Dès lors qu'un dépôt sauvage va être détecté par l'algorithme, il y a un bandeau d'alerte rouge et instantanément, l'opérateur a sur son deuxième écran l'image qui va s'afficher. L'opérateur n'a aucune manipulation à faire.
Pour faire cesser l'infraction, l'opérateur peut directement parler au contrevenant.
Police municipale, bonjour monsieur, vous êtes...
Unique en France, ce logiciel a été conçu par les services informatiques de la ville de Nice, Jonathan Hénouze.
L'algorithme vient, entre guillemets, en remplacement des yeux de l'opérateur. Tout l'enjeu, ça a été de travailler sur des algorithmes suffisamment performants qui permettent d'avoir cette remontée d'alerte en temps réel.
Pour la collectivité, les dépôts sauvages ont un coût important. Pendant 6 mois, 20 sites identifiés comme vulnérables vont donc être sous surveillance des algorithmes. Anthony Boré, le premier adjoint de
de la ville de Nice.
C'est 5 à 6 millions d'euros pour le contribuable niçois. Alors nous verbalisons plus, mais nous voulions aller plus loin pour que nos agents puissent pouvoir intervenir de manière plus rapide.
Et attention, la note peut être salée, 1500 euros d'amende, 3000 euros en cas de récidive. Nice, Frédéric Michel, Europe 1.
Le Tour de France, dernière étape en Bretagne. Aujourd'hui, le petit-fils de Raymond Poulidor, Mathieu Van Der Poel, toujours en jaune, après une journée marquée par de nouvelles chutes nombreuses. Certains pointent les dangers du tracé fait par l'organisateur.
Le journal signé Marion Calais sur Europe 1, il est 6h-20. Et on retrouve Thierry Léger pour les pronostics du Quintet.
C'est sur l'hippodrome d'Auteuil que se disputera ce quintet à handicap sur les haies, réservé exclusivement aux chevaux âgés de 5 ans. Et parmi les 15 partants, je n'ai pas hésité à placer en tête de ma sélection Marty McFly, le numéro 6, second d'un très bon cheval pour ses débuts le 29 mai à Auteuil. Et pour sa première tentative dans cette catégorie des handicaps quintet, il est assurément idéalement placé pour d'emblée s'imposer. On lui opposera les numéros 14, Folie Passagère, 2, Louanas et 7, Great Escape, classés respectivement 2e, 3e et 6e, tous très près les uns des autres, le 5 juin, dans un handicap similaire à Auteuil. Ensuite, méfiez-vous des numéros 9, Grand Art, que je sais estimé par son entourage, et 10, Hayette, certes absent depuis plus de 7 mois, mais qui, je le sais, est déjà très près le matin à l'entraînement. Enfin, les numéros 4, Zadol, et 8, Polygone, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 6, 14, 2, 7, 9, 10, 4 et 8.
C'est noté Thierry Léger, merci à vous. Et on retrouve tous vos pronostics sur europe1.fr.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
5h41, j'accueille le premier invité de la matinale. Bonjour Frédéric Sève.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin dans le 5-7. Vous êtes le secrétaire national de la CFDT, en charge du dossier sensible des retraites. Le sujet revient sur le tapis. Europe 1 révélait désir, grâce à Nicolas Barré, qu'Emmanuel Macron envisage de remettre en route cette réforme arrêtée par le Covid en 2020 et que le président s'oriente vers un recul de l'âge, une retraite qui passerait à 64 ans. Quelle est votre position là-dessus à la CFDT ?
Alors, on a toujours été opposé aux mesures d'âge. On a toujours été opposé aux mesures d'âge parce qu'elles nous paraissent injustes, parce qu'elles frappent tout le monde indistinctement, d'abord indistinctement de l'âge auquel il a commencé à travailler et puis de sa capacité à se maintenir en emploi. Mais si je peux me permettre juste une remarque, la réforme qui était en cours, elle portait sur tout autre chose. Elle portait sur la construction d'un système de retraite commun à tout le monde. C'était un autre sujet. Là, on est sur une mesure, j'allais dire, bassement paramétrique.
Une mesure uniquement paramétrique, on joue uniquement sur l'âge, alors que la première fois on parlait de la construction d'un régime universel, voilà. Tout ça est abandonné, il n'en est plus question.
Ben, en tout cas, dans ce qui bruisse dans la presse, si vous me permettez cette expression depuis hier, il n'en est pas question. Ouais. D'ailleurs, le président lui-même a dit, dans le Lot, je crois, avait dit que la réforme ne pouvait pas être reprise dans l'État, donc je pense qu'il l'a enterrée.
Alors pourtant, l'hiver 2019-2020, au moment des grèves qui ont eu lieu contre cette réforme des retraites qui se préparait à l'époque, juste avant donc l'épidémie de Covid, on parlait déjà de cet âge de 64 ans, on parlait d'un âge pivot, on revient à ça finalement ?
C'est autre chose, l'âge pivot était autre chose, mais l'âge pivot, je me rappelle qu'il avait été retiré de la loi, sous la pression de tout le monde, la CFDT en tête, il avait été retiré de la loi. Donc il n'est pas dans la loi qui a été votée au Parlement. Mais cela dit, là, ce qui est en jeu dans l'article de presse, je le souligne bien, c'est un report de l'âge légal, c'est-à-dire l'âge à partir duquel on peut faire valoir ses droits à la retraite. C'est-à-dire, grosso modo, c'est l'âge en dessous duquel, normalement, on ne part pas à la retraite. Donc c'est encore autre chose. C'est la même mesure que celle qu'avait prise Nicolas Sarkozy en 2010.
On comprend peut-être l'intérêt politique de le faire en période de présidentielle. Vous, à la CFDT, pourquoi vous êtes contre cette mesure par principe ?
Alors, c'est pas que par principe. Si vous me permettez, il y a trois raisons qui nous font être opposés à cette mesure. La première, c'est que économiquement, c'est pas si intéressant que ça. C'est-à-dire quand vous voyez peut-être des chiffrages qui disent que ça rapporte 14 milliards, mais c'est toujours un calcul qui est fait à courte vue. Si vous repoussez l'âge de la retraite, l'âge légal d'ouverture des droits, les personnes qui sont déjà au chômage ou en invalidité à cet âge-là vont simplement rester au chômage ou en invalidité un peu plus longtemps. Donc ça fait des dépenses en moins pour le régime de retraite, mais ça fait des dépenses en plus pour l'assurance chômage ou pour l'assurance maladie en ce qui concerne l'invalidité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une, dans les gens qui liquident leur retraite, une personne sur deux n'est pas en emploi au moment de liquider sa retraite. Donc c'est des personnes qui amargeront à d'autres budgets. Ça, c'est pour le côté économique. Deuxième raison, c'est socialement injuste la manipulation de l'âge, parce que il y a des personnes qui ne seront pas du tout affectées. Celles qui devaient partir après, dont l'âge du taux plein, comme on dit, est après 64 ans, ben ceux-là partiront après 64 ans, avant comme après. Par contre, ceux qui ont commencé à travailler tôt, ceux-là seront obligés de partir plus tard, et sans raison, puisqu'ils ont d'ailleurs fait leur taf, si vous me permettez l'expression. En plus, ça pénalise ceux, je les ai déjà cités, qui ne peuvent pas se maintenir en emploi à ces âges avancés. Ceux qui ont eu un travail pénible, ceux qui sont usés physiquement, ceux qui n'ont pas des compétences faciles à monnayer sur le marché du travail, ben ceux-là seront pénalisés. C'est une mesure uniforme, qui est aveugle, qui ne tient pas compte de la situation des gens.
Après, mais Frédéric Sèvres, quand on voit les chiffres du déficit du régime de retraite, l'allongement de la durée de vie aussi, est-ce qu'on a le choix finalement? Est-ce qu'on peut se passer d'une réforme qui finalement, d'une façon ou d'une autre, nous ferait travailler plus longtemps?
Travailler plus longtemps, c'est déjà dans la loi. C'est-à-dire actuellement, la durée de cotisation augmente. Tous les 3 ans, elle prend, je ne saurais même plus vous le dire, un trimestre tous les 3 ans. C'est-à-dire que depuis 2014, l'augmentation progressive de l'âge de la retraite, de la durée de cotisation nécessaire pour avoir le taux plein, est inscrite dans la loi et doit continuer comme ça. Ça doit augmenter jusqu'à la génération de mémoire, jusqu'aux personnes nées en 1973. Et après, qui devront travailler 43. Donc, l'augmentation de la durée de cotisation, de la durée de travail, elle est déjà inscrite dans la loi. Là, c'est juste une mesure qui interdirait de prendre sa retraite avant 64 ans, si on prend les termes qui sont dans l'article.
Et qui donc mécaniquement, finalement, frappe les gens qui ont commencé à travailler tôt.
Eh ben, voilà, ceux qui ont commencé à travailler tôt, ben, ils se voient, même s'ils ont leurs 41, 42 ans, 43 ans de cotisation, ben, ils ne peuvent pas partir. Donc on leur impose de travailler non pas 43, mais 44, 45, 46 ans pour bénéficier de leur retraite alors qu'ils ont commencé à travailler tôt. Oui, l'âge de la retraite augmente sur la durée, mais c'est déjà dans la loi. Là, c'est juste une façon de faire des économies sur le dos de ceux qui ont commencé à travailler tôt.
C'est une bombe sociale, selon vous, de remettre cette idée sur le tapis à l'aube d'une campagne présidentielle?
Bah, c'est surtout, c'est une bombe, c'est un sujet socialement conflictuel, ça c'est évident, on l'a déjà vu dans le passé, on le reverra encore à cette occasion. C'est socialement, je l'ai dit, injuste, les mesures injustes, ça fait jamais du bien socialement. Hein. Mais surtout, j'ai envie de dire, politiquement, c'est juste pas le moment, si vous me permettez cette expression. C'est-à-dire que on sort quand même d'une période très compliquée, on a vécu 18 mois très compliqués, de crise économique majeure, comme on n'a pas connu depuis 45. D'une épidémie, je vous en dis pas, depuis la grippe espagnole, on n'avait pas connu quelque chose d'équivalent. Le pays a quand même été sérieusement, il a tenu bon, mais il a quand même été sérieusement secoué, certains même choqué, je dirais. On pourrait peut-être se donner, j'avais juste 6 mois de break pour pouvoir souffler un peu, le temps que la reprise s'installe et que les choses repartent. Hein. D'autant qu'il y a une élection, effectivement, c'est dans toutes les têtes, il y a une élection présidentielle dans un an. Ben, à ce moment-là,
d'où le timing serré aussi. C'est l'idée de le faire avant la présidentielle qui rend le timing extrêmement serré.
Mais je vois pas l'intérêt de le faire avant la présidentielle. Je vois pas l'intérêt de le faire de manière générale. Mais pourquoi se précipiter avant la présidentielle? Ça ne rapportera pas un centime entre septembre et la présidentielle. Ça ne rapportera rien à cette mesure.
Donc c'est un symbole. Et donc c'est un symbole que veut agiter Emmanuel Macron dans le cadre de sa campagne.
Ça, je vous le laisse dire. Moi, j'en sais peut-être. J'avoue que j'en sais rien. Je suis pas compétent en matière politique ou de communication. Mais je ne vois pas l'intérêt. Encore une fois. Je conteste la mesure sur le fond, et alors vraiment, le calendrier me paraît irresponsable au vu de l'état du pays.
Merci à vous, merci Frédéric Sèvres d'être passé par Europe 1 ce matin, secrétaire national de la CFDT en charge donc de ce dossier des retraites. Bonne journée à vous.
Merci à vous.
Europe 1.
Il est 5h48 sur Europe 1 et c'est l'heure de la France bouge avec vous Aurélien Fleureau. Où est-ce qu'on va ce matin?
Alors direction la Charente-Maritime où un ancien cadre de mutuelle est devenu créateur de forêts.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Sébastien Krebs.
5h49 sur Europe 1, 120 minutes de tension, 3 partout à l'issue du temps réglementaire, la prolongation, puis les tirs au but et un pénalty raté de Kylian Mbappé qui élimine la France dès les 8e de finale de l'Euro. Le coup de tonnerre La Suisse affrontera l'Espagne en quart de finale vendredi. Un euro sur lequel veille Bruxelles. Hier, un vice-président de la Commission européenne a pointé les risques sanitaires que fait peser la tenue des demi-finales et de la finale à Wembley en Angleterre, où le variant Delta a entraîné ces derniers jours une augmentation des contaminations. Dans l'actualité aussi ce matin, l'adoption définitive aujourd'hui au Parlement du projet de loi bioéthique, un texte qui ouvre notamment le droit à la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. Et puis 11 morts, toujours plus de 150 disparus, le dernier bilan de l'effondrement d'un immeuble la semaine dernière en Floride, près de Miami. Les recherches sur place se poursuivent.
Écoutez Le Monde changer avec Sébastien Krebs sur Europe 1.
On revient en France, c'est La France Bouge avec vous Aurélien Fleureau. Des initiatives que nous mettons en valeur chaque matin à travers nos régions. Alors ce matin, la Charente-Maritime, pour une promenade en forêt et plus précisément, promenade dans de futures forêts.
Exactement, créer des forêts, cela peut paraître utopique, on pourrait penser au début d'un roman. Eh bien pas du tout, c'est l'ambition concrète et affichée par Baptiste Trény, un Niortais qui se décrit désormais donc comme un créateur de forêts, un promoteur de biodiversité. Son objectif, inciter les collectivités à planter des forêts sur des terrains communaux en friche, recréer ce qu'il appelle des forêts primaires, donc en reprenant tout de A à Z, sélection, plantation, entretien. Il s'occupera de tout pendant les 5 premières années. Il explique dans les colonnes d'Aujourd'hui en France qu'en contrepartie, ce terrain ne pourra pas être utilisé pour autre chose pendant 99 ans, ce qui laisse le temps de faire pousser quelques arbres.
Et les communes sont partantes ?
Alors jusqu'ici, l'accueil reçu par l'initiative est positif. C'est d'abord un projet entièrement gratuit pour les communes. C'est Baptiste Trény qui s'occupe de faire naître la forêt et c'est permis par un outil juridique récent, l'obligation réelle environnementale. Les propriétaires fonciers, donc les communes, s'engagent alors à protéger la biodiversité. Et c'est ce qui s'est passé par exemple à Landray, en Charente-Maritime, où la municipalité avait pour projet de recréer un coin de nature. Ils ne savaient pas forcément comment faire. Et la maire de la commune le dit dans Aujourd'hui en France, c'est le bouche à oreille qui leur a permis d'entrer en contact avec ce créateur de forêt.
Ce créateur de forêt, alors comment fait-il ? Ça ne s'improvise pas, créer une forêt ?
Oui, alors pour sélectionner les essences, hein, c'est le terme employé par les forestiers pour parler des espèces d'arbres. Il s'appuie sur l'expertise du fondateur de la société Permaforest et ensemble ils sélectionnent de quoi composer une forêt diverse entre chênes et arbres fruitiers. Et pour financer ces projets, Baptiste Trény propose aux entreprises d'investir si elles souhaitent agir concrètement pour l'environnement, mais aussi aux habitants, aux riverains, de s'acheter un petit bout de forêt, 5 euros le mètre carré.
Voilà, le créateur de forêt, voilà une initiative qui va plaire à Fanny Agostini qui sera avec nous bien sûr dans quelques minutes pour notre planète. Aurélien Fleureau, merci à vous, 5h52. Et on va regarder ce qui anime les réseaux sociaux avec vous, Martin Lange. Et sans surprise, c'est le match d'hier soir.
Exactement, la défaite de l'équipe de France contre la Suisse, hein, après un match au scénario complètement fou, hein, qui a tenu en haleine les internautes jusqu'au bout de la nuit. Alors tout avait très mal commencé pour les Bleus avec une antenne de match ratée, hein, 1-0 pour la Suisse à la mi-temps. Et puis la folie s'est emparée de ce match et des réseaux. Hein, Benjamin Pavard a concédé un pénalty stoppé par le capitaine de l'équipe de France, Hugo Lloris. Hein. Oh, captain, my captain, s'exclame Pierre. Le premier pénalty arrêté par le gardien des Bleus depuis 9 ans. Peut-on enfin reconnaître ce que cette équipe doit à Lloris ? S'insurge Nicolas Xivmartov. Dans la foulée, le show Karim Benzema commence. L'attaquant des Bleus, dont le retour a tant fait parler, inscrit 2 buts en 1 minute 30. Un doublé salué jusqu'à Los Angeles, hein, par Omar Sy, mais aussi par la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, hein, qui fait de Benzema son roi, avec un émoticône en forme de couronne.
Ah oui.
Peut-être un moyen aussi, hein, d'éteindre la polémique. SoFoot indique d'ailleurs, hein, que le score du RN est tombé à 2% après les buts de Benzema. Les Bleus sont dans un temps fort, hein, ils en profitent une fois de plus. Paul Pogba inscrit le but du match d'une frappe en pleine lucarne. 3-1, comme nous, hein, les internautes pensent que c'est gagné. Mais l'impensable se produit, les Suisses reviennent 3-2, puis égalisent au bout du temps réglementaire. Douche froide sur Twitter, mener 3-1 à 10 minutes de la fin et se faire remonter. C'est inadmissible pour Fortius. Comment c'est possible, se demande lui Flo. Vient l'heure des prolongations avant le dénouement, les tirs au but. Kylian Mbappé est le dernier tireur des Bleus et il rate sur les réseaux, hein, le débat enfle. Est-il responsable de l'élimination ? L'attaquant du PSG, hein, s'excuse même sur Instagram. J'ai voulu aider l'équipe mais j'ai échoué. Il reçoit de nombreux soutiens et pas des moindres. Hein. Garde la tête haute, Kylian, écrit la légende Pelé. Voilà, après plus de 2 heures de folie, hein, les Bleus sont éliminés. Un scénario qui rappelle de vieux souvenirs. Le fameux Séville 82. Cette élimination contre l'Allemagne au tir au but déjà, hein, sur le même score. 3 buts partout. Remake pour certains, pas la même dramaturgie pour d'autres. Mais on laissera le mot de la fin à Guimou. Hein. C'était quand même un putain de match.
Voilà, bon, ça résume bien. C'était surtout une soirée d'angoisse stress total pour tout le monde. Je crois que là, en termes de nervosité, on était bien. Et on voit que les joueurs communiquent tout de suite après le match sur les réseaux sociaux. Hein, Kylian Mbappé sur Instagram, juste après le match, pour présenter des excuses.
Il maîtrise sa communication à merveille, il faut le dire.
Ouais. Martin Lange, merci à vous. 5h55. Vous avez rendez-vous avec Christophe Ondelat pour rendre la traconte à 14h tout à l'heure sur Europe 1. L'histoire du jour, c'est celle d'un garçon dont on voulait faire une fille. Ça se passe en 1966 au Canada, à la suite d'une erreur médicale. Le pénis de Bruce, 7 mois, est brûlé. Un psychologue américain va ensuite proposer aux parents de lui retirer les testicules et de l'élever comme une fille. Le récit de cette histoire dans Ondelat raconte, vous le retrouvez à 14h sur Europe 1 et dès maintenant en podcast sur europe1.fr.
Europe Matin, le 5-7, Sébastien Krebs.
Bonjour Fanny Agostini.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Notre planète avec vous et ce matin, une trouvaille, une découverte de l'université de Cambridge qui pourrait bouleverser l'industrie du plastique à usage unique, et cela grâce aux araignées.
Oui, grâce à la merveille de bio-ingénierie que sont les toiles d'araignée, des chercheurs de l'université britannique sont parvenus à mettre au point un polymère durable et entièrement biodégradable. En s'inspirant de la soie d'araignée, à partir de l'un des matériaux justement naturels les plus résistants, les chercheurs ont tenté de mimer ce tissage en assemblant des protéines végétales de façon à ce qu'elles reproduisent ce maillage spécifique pour former une matière solide et étanche, tout comme le plastique. Un substitut de plastique donc qui ne nécessite aucun recours à l'animal et il peut être fabriqué en réutilisant la matière de nos déchets alimentaires. Vous comprendrez alors qu'ici, il y a un véritable potentiel de circularité.
Et quand on voit les prévisions de croissance de la demande alimentaire et du plastique à usage unique, on peut se dire, Fanny, que ce nouveau matériau donc inspiré des toiles d'araignée est une aubaine ?
Et oui, avec l'augmentation de la population, les emballages plastiques qui accompagnent notre nourriture vont forcément augmenter. Le WWF prévoit une augmentation de 40% de la production de plastique d'ici 2030. Or, les emballages représentent déjà près de la moitié des 340 millions de tonnes de déchets plastiques produits à travers le monde. Celui-ci étant déjà saturé de dérivés du pétrole, il est vraiment grand temps de substituer au plastique un matériau qui puisse répondre aux précautions sanitaires sans saccager la planète.
Pourtant, vous vouliez nous alerter, Fanny, attention à ne pas tomber dans le piège, finalement, en maintenant nos modes de consommation.
Absolument. Cette possibilité de remplacer une partie du plastique polluant par un matériau biodégradable ne peut en aucun cas servir d'alibi pour jeter tous nos plastiques à usage unique dans la nature. On voit mal d'ailleurs les écosystèmes parvenir à absorber tous ces déchets, même biodégradables, s'ils continuent d'être produits et dispersés dans les quantités massives qu'ils le sont aujourd'hui. D'autant plus que la création de matériaux, même lorsqu'ils sont biodégradables et biosourcés, consomme toujours de l'énergie. Amortir l'impact environnemental de la croissance démographique et des conditions de vie est primordial, mais le réduire est d'autant plus une nécessité.
Fanny Agostini, merci à vous. On écoute Le Monde Changer avec vous tous les matins. On écoute notre planète. À demain.
Le 5-7.
Sébastien Krebs.
Écoutez Le Monde Changer.
Bienvenue sur Europe 1. Si vous nous rejoignez ce matin, ravi de vous accompagner au réveil en ce mardi matin 29 juin. Si vous aimez le foot, vous vous réveillez sans doute avec une petite gueule de bois. Hein. Ce matin, immense déception, on en parlait il y a quelques minutes, la France donc éliminée de l'Euro. C'est le grand titre, évidemment, à la une. On va y revenir dans le journal de 6h. Et puis on écoute Le Monde Changer et on voulait s'arrêter ce matin sur ce qui se joue au Canada, dans l'ouest du Canada. La région de Vancouver est en train de connaître une vague de chaleur extrême, une canicule sans précédent. Tous les records sont battus, la température a dépassé les 47 degrés hier. Comment expliquer ce phénomène climatique qui touche même l'Arctique? Quelles conséquences? Vous allez tout comprendre ce matin grâce à David Phillips. Il est climatologue, il travaille pour le ministère canadien de l'Environnement. Il nous a accordé un entretien depuis Toronto. Il sera avec nous à 6h40. La météo plus proche de nous, Laurent Cabrol, on n'est pas sur cette canicule-là du tout en France.
Non,
plutôt
non.
Sur un temps humide encore aujourd'hui.
Hein. Très humide et très orageux. Enfin, c'était vraiment une journée pas sympa du tout, puisque que nous aurons à la fois des averses particulièrement nombreuses et des orages qui seront parfois dangereux, parce que ce sont des orages, si vous voulez, bon, dans les gouttes froides, c'est une dépression qui tombe sur elle-même, sur la France. Bon. Et donc, quand les orages se profilent, ils se profilent de manière statique, c'est-à-dire qu'ils ne bougent pas trop, ou ils bougent très lentement, de sorte que quand les nuages se vident, parce qu'un orage c'est un nuage qui se vide, quand il se vide pratiquement au même endroit. Et donc les risques d'inondation soudaine sont nombreux. Donc c'est la raison pour laquelle les orages d'aujourd'hui sont particulièrement à surveiller. Hein, alors je ne vais pas vous dire des régions où il y en aura plus qu'ailleurs. Les orages se déclencheront essentiellement cet après-midi. Et ils épargneront le bassin méditerranéen, ça on le sait. Les Cévennes, c'est toujours la même. Les Cévennes, quand même, c'est un peu plus rare. L'Aquitaine, le Midi-Pyrénées, le Béarn seront sous des ondées, mais pas des orages ni des grosses averses. Voilà, ce sont les seuls secteurs de France
partout
où
ailleurs, il y a un risque.
Partout ailleurs, le risque d'orage et d'averse existe avec des températures qui sont encore en baisse, hein, entre 18 et 22, une fois que 20 à Paris sur la moitié nord, 18, 22 et 23 à 30 sur la moitié sud.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7.